Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un auteur très très connu et qui a sorti un excellent livre justement sur le marketing. C'est quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas de visu, mais qui est très très connu puisqu'en fait, Stéphane, je te laisserai te présenter juste après, est l'auteur de Stratège Marketing, une des chaînes YouTube les plus connues et surtout quelqu'un qui est très 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 connu dans le domaine de l'influence, de psychomarketing. Et donc justement, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Hello Frédéric, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, mon nom c'est Stéphane Lendy, je pratique le marketing depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années au sein d'entreprises telles que Danone, Nestlé, IBM ou Nespresso, ainsi que des plus petites entreprises. J'ai notamment, comme tu l'as mentionné, créé aussi de nombreuses plateformes. J'ai géré aussi le site e-commerce de Nespresso en Suisse pendant 3 ans. À côté de ça, j'ai par exemple vendu mon premier site internet, NetActuel, à un groupe média en 2001. Donc ça fait vieux, je suis là depuis relativement longtemps. J'ai aussi créé SmartCube, qui est un concept innovant qui aide les gens à se développer, à développer leurs talents, leurs compétences, ou encore Stratège Marketing, qui est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une plateforme de référence en marketing en francophonie. Puis alors, au fil des années, des échecs, des succès, après avoir vendu toutes sortes de produits, des produits digitaux, des logiciels, des produits alimentaires, de luxe, des services du B2C, du B2B, dans toutes sortes de canaux de distribution, j'ai pu identifier des patterns, des points communs entre ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. Et j'ai pris tout ça, j'ai ajouté les dernières connaissances en matière de sciences comportementales, de marketing direct, de copywriting, mais aussi de marketing digital. J'ai créé une méthodologie qui se nomme le psychomarketing et dont justement j'ai fait un livre.
Ah oui, parce que je trouve ça super intéressant, parce que moi, tu vois, ça fait des années que je lis des bouquins, et en particulier, je suis un gros fan de Robert Cialdini, avec donc Influence et Manipulation et Persuasion, qui est un petit, on va dire, c'est un petit, je dirais que c'est un chapitre en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à justement un bouquin comme Persuasion, et ben en fait, tu vas proposer une méthode complète et non pas juste des tips ou des études, parce que c'est un petit peu, je trouvais, la limite de Influence et Manipulation et Persuasion, c'est que il nous donne des leviers. Il nous dit voilà, qu'est-ce qu'on fait pour influencer les gens, etc. Sauf que toi, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ton bouquin, c'est que tu donnes véritablement une méthode à suivre, alors avec généralement 7 étapes, à ce que tu as indiqué. Et surtout, on s'y retrouve parce que ce système de persuasion, de psychomarketing, en fait, il devient de plus en plus indispensable parce que, il vaut mieux être quasiment connu, voir quelqu'un qui est convaincu d'acheter ou convaincu de ton expertise avant en fait d'aller faire son shopping. Et donc justement, c'est quoi justement ce psychomarketing que tu présentes dans ton livre?
Oui, alors effectivement, tu fais référence à Robert Cialdini, qui est quand même un maître dans le domaine, avec ses 2 livres de référence, Influence et Manipulation, et puis je crois Persuasion, effectivement, son dernier ouvrage. Alors pour répondre à ta question, le psychomarketing, on sait que le marketing traditionnel à la base ne fonctionne plus très bien. Il date des années 50, à une époque où la demande excédait l'offre, et il y a au début du XXe siècle, John Wanamaker, qui était le fondateur de l'enseigne américaine éponyme, qui disait déjà: je sais que la moitié des sommes que je dépense en pub, je dépense en pure perte, mais j'ignore de quelle moitié il s'agit. Et ça, c'était il y a longtemps, il y a plus d'un siècle. Donc, en fait, l'idée était de codifier la recette que j'ai évoqué tout à l'heure, pour limiter justement les risques en marketing et maximiser la productivité des investissements marketing. Alors le psychomarketing, c'est une nouvelle approche, plus efficace que le marketing. C'est une méthode qui est fondée sur ce que la science nous apprend des mécanismes cérébraux, c'est-à-dire comment le genre humain remarque, perçoit, mémorise, décide, agit, et on prend tout ça et on en fait une recette pour orchestrer ces leviers, pour attirer plus de clients et en faire des ambassadeurs. Alors, quand je dis que c'est une nouvelle approche de marketing, je vais peut-être juste donner quelques exemples. C'est-à-dire qu'en marketing traditionnel, on va toujours partir d'un client. On va se dire: ah ouais, t'es un nouveau marketeur, alors première chose que tu vas dresser la persona de ton client ou l'avatar de ton client. Alors, c'est bien, c'est louable. Mais c'est quand même oublier que nous, marketeurs, on a, On a chacun des biais perceptuels, des biais cognitifs, on a nos limites mentales. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, et ce qu'on fait en psychomarketing, c'est qu'on commence déjà par bien se comprendre soi, psychomarketeur, comprendre ses biais cognitifs, saisir ses limites mentales pour après appréhender son marché avec plus de clairvoyance, d'objectivité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dresser une persona, ou moi, ce que j'appelle un client spécimen, de manière beaucoup plus objective. Et du coup, on part après avec déjà une base qui est beaucoup plus factuelle. Ensuite, un autre exemple, c'est qu'en marketing traditionnel, ce qu'on a tendance à faire, on recrute un client. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recrute un autre client et ensuite on continue. Pourtant, on dit que ça coûte jusqu'à 5 fois plus d'acquérir un nouveau client que d'en retenir un existant. Et c'est pour ça qu'en psychomarketing, ce qu'on s'attache plutôt à faire, c'est à créer des ambassadeurs qui facilitent ensuite le recrutement de nouveaux clients, parce que c'est eux qui vont les recruter, ces nouveaux clients en grande partie. Et du coup, ça va diminuer le coût d'acquisition de la clientèle en augmentant la productivité des investissements marketing. Autre et dernier exemple, en marketing traditionnel, on utilise le fameux tunnel de vente ou entonnoir de conversion. Et c'est une approche qui fonctionne. Elle est juste, cette approche. Mais là encore, on ne fait que d'exclure des prospects pour en recruter un ou deux qui vont finir par être clients. Et ce qu'il faut surtout travailler, c'est l'après-tunnel de vente, l'après-entonnoir, pour aller justement travailler la rétention, parce que c'est là, dans la rétention, qu'il y a le plus d'argent à se faire, finalement. Et puis enfin, il faut remettre l'humain au centre, comprendre les mécanismes cérébraux, comment le fonctionnement du cerveau, en fait, comment le cerveau fonctionne, pour faire du marketing réellement efficace, et le psychomarketing se base là-dessus.
Ouais, mais justement, c'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai justement bien aimé dans ton livre, c'est qu'en fait, je me suis reconnu et j'ai dit « merde, enfin mince, c'est exactement ce qu'on fait, mais sans la vraie méthode ». Parce que par exemple, c'est ce qu'on avait déjà échangé ensemble, c'est que moi, en fait, à titre professionnel, je travaille donc dans le marketing B2B, et ça m'arrive d'avoir des gens donc, qui participent à nos webinaires et qui, en fait, ils participent à un webinaire, deux webinaires, donc ils s'inscrivent, ensuite on récupère leurs coordonnées, on les relance, etc. Et il y en a certains qui nous disent « Ah ouais, mais je vous ai pris parce que j'ai confiance en vous maintenant, parce que j'ai vu vos webinaires, vous avez l'air d'être un expert, etc. » Et on a quasiment pré-vendu le truc, il faut juste le rassurer et avoir un prix qui n'est pas complètement délirant pour qu'il accepte en fait de payer ce prix un petit peu plus premium par rapport aux autres, puisque nous, on est plutôt dans le niveau un peu plus haut de gamme que sur les solutions low cost d'entrée de gamme. Alors justement, ça c'est un petit peu une des bases du psychomarketing. Alors justement, tu m'as dit qu'il y avait 7 étapes. D'ailleurs, tu en as parlé de quelques-unes là juste auparavant. Quelles sont les 7 étapes nécessaires pour persuader et mettre en place ce dispositif de psychomarketing?
Alors effectivement, donc il y a 7 étapes qui font partie en fait de ce que j'appelle une spirale de valeur et de persuasion. Et pourquoi une spirale de valeur et de persuasion? On a l'habitude, on l'a vu tout à l'heure, on a évoqué l'histoire de l'entonnoir de conversion. Moi, je préfère parler de spirale parce qu'une spirale, c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. Et en fait, ça représente bien la relation qu'on peut avoir avec un client qui va grandir aussi presque à l'infini. Et donc, ces 7 étapes vont être placées sur cette spirale de valeur et de persuasion, valeur et persuasion, parce qu'on va apporter tellement de valeur qu'à la fin, le prospect va s'auto-persuader que c'est nous la bonne solution. Et donc, on va le faire passer à travers 7 étapes qui sont la pré-influence, l'attraction, la transformation, l'engagement, la tantalisation, la transaction, et puis la plus importante, la récurrence. Alors, peut-être juste pour les décrire de manière un peu succincte, hein, parce qu'effectivement, tout est dans le livre. Donc, on commence par la pré-influence. Et la pré-influence, c'est quoi? C'est de convaincre son marché avant même qu'il n'entre en contact avec nous. C'est-à-dire que notre réputation nous précède. C'est un petit peu l'idée du type qui se balade dans la rue et qui est un peu fin, puis qui tout à coup sent l'odeur d'un bon restaurant. Il en sent juste l'odeur et ça lui donne encore plus faim. Et quand il arrive à la hauteur du restaurant, il n'a qu'une envie, c'est d'entrer. À ce moment-là, il y a une étape de pré-influence, c'est-à-dire que le restaurant, juste l'odeur, a alléché le client.
Et donc, c'est ce que font, par exemple, à Paris, tu as souvent les bars, cafés, etc., qui diffusent en fait avec des diffuseurs d'odeurs, des odeurs de café dans la rue ou dans le métro. Et tu dis, oh, je me prendrais bien un petit café. Quoi.
Exactement.
Et c'est vrai qu'à titre personnel, je le fais aussi. C'est-à-dire que pour étendre mon influence dans un secteur, là, je me suis lancé donc il y a 4 ans dans le domaine de la relation client, bah, j'ai commencé à faire des interviews de professionnels sur mon blog. Et c'est vrai qu'à force d'interviewer comme ça des professionnels, quelque part, tu deviens reconnu, alors que tu n'as pas forcément une connaissance, une reconnaissance énorme. Mais les gens se disent, ah ouais, mais c'est lui spécialiste. Ah, il est super connu. Si tu cherches quelqu'un qui a besoin de tes trucs, demande-lui tel machin, quoi.
Exactement. C'est, bah,
ou
typiquement,
le bouquin sur le gros hacking, tu vois, c'est écrire un bouquin, c'est quelque part persuader personne parce que tu as écrit un bouquin. Et par exemple, pour les chatbots, moi, justement, on s'est lancé sur les chatbots il y a 2 ans et j'ai écrit un bouquin sur les chatbots parce que c'était vraiment voulu. C'était pour passer pour un expert parce que je sais qu'un bouquin est important. Et à chaque fois, je suis interviewé. Là, j'ai été interviewé dans Capital, qui est un magazine français. C'est la version en ligne. Et c'est vrai qu'ils m'ont interviewé avec plein de grosses marques alors que nous, on n'est pas le plus gros acteur. Mais tout simplement parce que j'ai écrit le bouquin et j'ai gagné de la légitimité.
Ben c'est ça, exactement. Et ça, c'est le pouvoir de la pré-influence qui est la première étape. C'est de faire en sorte finalement que les gens viennent vers nous sans qu'on ait vraiment besoin de faire de la publicité. Et donc, du coup, dans le livre, justement, dans le livre Psychomarketing, il y a plein de tactiques de pré-influence et de moyens d'y parvenir. Et ensuite, une fois qu'on a justement passé cette étape de pré-influence, eh bien, on peut passer à l'étape d'attraction. Et l'attraction, l'idée, c'est d'attirer une personne ciblée et de lui offrir tellement de valeur qu'elle va nous donner ses coordonnées. Et en fait, on va comme ça la transformer en prospect. Et l'exemple typique, il y a une best practice, si on peut dire, dans ce domaine-là, c'est HubSpot, qui fait un excellent job dans le domaine des logiciels pour B2B, qui offre de multiples outils gratuits, comme par exemple un guide Instagram pour les entreprises. Mais pour l'obtenir, il faut laisser ses coordonnées complètes, nom, prénom, entreprise, site web, nombre d'employés. Vraiment, il faut remplir presque une fiche. Et à l'heure où on parle ensemble, Frédéric, HubSpot propose pas moins de 250 ressources avec une page justement de capture pour pouvoir récupérer les données et les données des prospects. Des livres électroniques, des outils, des guides, etc.
Ah, ils ont même une signature, c'est ça qui était étonnant. Ils ont un système de signature personnalisé que tu peux utiliser gratuitement. Et c'est là que tu dis, c'est un peu dérivé de leur métier. Et pourtant, tu peux avoir ta propre signature super pro avec HubSpot. Et ils ont plein d'outils, des gens en calendrier éditorial, ROI, qui vont un peu en dehors de leur sphère de base, qui est comme le CRM et le centre de contact. Et pourtant, ils sont super forts là-dessus, quoi.
Et ouais, parce que c'est effectivement du CRM. Après, ben, ils savent les outils que tu as voulu télécharger, ils pourront te cibler avec exactement ce que tu souhaites.
Oui, parce que leur CRM est plutôt marketing. Et donc, tous les gens qui sont autour du marketing sont intéressés par ce genre d'outils.
Exactement. Et enfin, maintenant, ben, du coup, on a les coordonnées du prospect. On va pouvoir communiquer avec lui. Il est vraiment dans la spirale de valeur et de persuasion. C'est le moment de passer à l'étape de transformation. Et donc, dans cette étape, on va éveiller un intérêt marqué pour notre produit ou service en juxtaposant l'état actuel du prospect, qui n'a pas encore acquis le produit ou service, avec l'état amélioré dans lequel il serait s'il jouissait vraiment du produit et de ses bienfaits. Bah, par exemple, moi, j'ai eu cette expérience il n'y a pas très longtemps parce que j'ai vu la présentation d'un commercial de Salesforce. Et en fait, il était très bien préparé. Déjà, il m'a demandé mes données avant l'entretien. Et il voulait en fait me proposer des modules supplémentaires de Salesforce. Il m'avait bien qualifié. Et lors de cet entretien, il a pu très clairement me montrer comment Salesforce allait apporter de la valeur en m'expliquant la situation initiale et en me faisant voir combien j'allais gagner en implémentant des modules supplémentaires Salesforce. Également, combien on allait économiser en effort. Et donc, c'était vraiment une démo de transformation. Et dans cette étape de transformation, ben justement, on montre un petit peu ce que ça pourrait donner si on avait déjà le produit en main. C'est vraiment l'idée du linge tout sale qu'on plonge dans un concentré de lessive et qui ressort tout blanc.
Ah, mais c'est vrai que Salesforce est un bon exemple au niveau de l'essorage d'un compte ou l'essorage d'un secteur, puisqu'en fait, si tu t'intéresses un peu à la vente, Salesforce, c'est une école qui est très dure, très difficile, management à l'américaine avec grosse pression. Par exemple, à Paris, tu sais, généralement, les gens ont un arrondissement ou un département. Chez eux, c'est quasiment aux rues prêches. Et donc, quand tu as un potentiel de compte, c'est tout petit et tu dois l'essorer, tu dois l'exploiter un maximum. Et comme toi, en fait, nous, on utilise Salesforce et moi, j'administre cette force. Et c'est vrai qu'ils te contactent pour te vendre différents modules complémentaires pour augmenter la valeur avec cette fameuse système de démo personnalisé, de quelque chose que tu peux
Exactement.
mettre en plus, etc. etc. Et c'est vrai que ça fait un petit peu parce que c'est pas juste je te vends un truc standard, mais c'est vraiment personnalisé, tu te projettes dedans.
Et même ton nom dans la présentation, enfin, ça va assez loin, leur truc. Donc ensuite, après l'étape de transformation, eh ben, il y a l'étape d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut travailler vraiment sur l'émotionnel pour susciter ce désir ardent qu'on veut faire naître chez le prospect, en l'impliquant émotionnellement grâce à des leviers, et un de ces leviers. Il y en a plein d'autres dans l'ouvrage, dans le bouquin, mais un de ces leviers, ben, c'est les récits, les histoires, les légendes. Et ça peut être typiquement la légende d'origine ou l'histoire de l'origine de l'entreprise ou du produit, celle de Hewlett-Packard, un géant informatique qui a été fondé dans un garage à Palo Alto, ou l'histoire des fondateurs, par exemple ceux d'Oracle qui sont tombés dans les années 70 sur le document d'un scientifique qui évoquait pour la première fois le modèle d'une base de données relationnelle, puis qu'ils ont décidé d'exploiter pour en faire une entreprise avec le succès qu'on connaît. Peu importe l'histoire, mais ce qui est important avec cette histoire, c'est qu'elle doit véhiculer implicitement les valeurs qu'on veut transmettre et la valeur également qu'on va pouvoir donner aux clients ou aux prospects en l'occurrence. Donc en termes d'engagement, là on est au top de l'engagement, le désir du prospect augmente encore. Et là on va passer à l'étape de tantalisation. Et dans cette étape, en fait, on va faire désirer quelque chose d'apparence inaccessible. Parce que plus quelque chose on a la perception que c'est inaccessible, plus c'est désirable en fait. Le désir augmente de manière inversement proportionnelle à l'accessibilité. C'est assez contre-intuitif. Mais du coup, ça va rendre le désir du prospect insoutenable. Tantalisation, ça vient du supplice de Tantale dans la Grèce antique. Et donc, typiquement, c'est un petit peu à l'entrée des boîtes de nuit, hein, il y a des grands,
Le
il y a
Studio
des mecs qui filtrent,
54.
voilà, exactement, qui filtrent les gens. Et du coup, étant donné que pas tout le monde peut y entrer, eh ben, ça donne plus envie encore de faire partie de ceux qui sont à l'intérieur. Et dans le domaine des entreprises, ben ça peut être typiquement une banque d'affaires pour laquelle il faut remplir certains critères, des barrières à l'entrée qu'on place, toujours dans le cadre du logiciel, que ce soit Salesforce, SAP ou d'autres. Au début, on a tendance à nous montrer l'ensemble, le package complet, puisque ça va nous apporter. Puis au fur et à mesure qu'on discute avec le commercial ou qu'on rentre dans le système, ben on remarque que eh ben, la plupart de ce qu'on nous a vendu, ben, c'est les attributs du produit super premium. Mais au début, il faut déjà commencer par avoir la base. Et en fait, ce sentiment d'inaccessibilité va créer du désir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter encore l'attrait du produit ou du service jusqu'à ce qu'il devienne quasiment insoutenable. Et ensuite, justement, au fur et à mesure qu'on avance dans la spirale de valeur et de persuasion, on arrive
Là, c'est la
maintenant
sixième étape, hein.
à la sixième étape, effectivement, l'étape de transaction. Alors,
Qu'est-ce
l'étape
qu'on
de
fait?
transaction, l'idée, c'est de déclencher un acte d'achat en le rendant le plus conséquent possible. Alors, dans l'étape de transaction, et là encore, il y a toute une pléthore d'outils et d'astuces dans l'ouvrage, mais l'idée concrètement, c'est de créer une dissymétrie de perception entre la valeur offerte qui doit être énorme et puis le prix demandé qui est très petit. Et donc, un exemple ici de quelqu'un qui a bien réussi cette approche, une entreprise très connue, Google, a poussé ça au maximum, puisque si on prend comme exemple Google Ads est en fait gratuit. Si on prend les CPC, si on décide de faire une publicité au coût par clic, tant qu'il n'y a personne qui a cliqué sur la publicité, on ne paye rien. En fait, les gens voient le truc, mais on ne paye pas. Et donc, ils ont réussi à créer cette dissymétrie de perception avec une grosse valeur offerte d'un côté et de l'autre un prix qui paraît très petit. Et ça, c'est tout l'enjeu en fait de la transaction. Si on veut que ça convertisse, il faut réussir à créer cette dissymétrie de perception. Et ensuite, l'idée, c'est de rendre l'achat considérable en ajoutant des ventes incrémentales ou des, ce qu'on appelle aussi des upsells. C'est typiquement le menu Big Mac avec lequel l'opérateur va nous demander si on souhaite un dessert et ensuite un café, etc. etc.
Mais surtout, maintenant, c'est bien foutu parce que si tu vas chez McDo, tu vois maintenant que c'est fait via les écrans, enfin, les écrans tactiles, et les upsells sont proposés systématiquement. Est-ce que vous voulez un thé? Est-ce que vous voulez un dessert? Parce qu'avant, en fait, les conseillers le proposaient, je pense, relativement peu. À la rigueur, ils proposaient, est-ce que vous voulez un menu Big Mac, un menu extra, machin, truc. Mais là, sûrement, c'est systématisé. Et puis, en plus, ils ont rajouté quelque chose qui est malin. C'est qu'en fait, ils proposent maintenant d'arrondir et donner des dons à des organisations caritatives. Et je trouve que ça, c'est bien parce que ça donne un petit peu une image positive de McDo qui n'était pas très bon. Et donc, en fait, je pense que... enfin, pour moi, c'est une véritable stratégie pour eux pour renouveler leur image, donc faire de l'upsell, certes, mais aussi pour ces trucs caritatifs pour dire non, mais on n'est pas que la World Company qu'on nous dit, dont on parle tout le temps. Et pareil, la stratégie des McDo, avant, c'était partout le même McDo dans tous les pays du monde. Maintenant, chaque McDo est quasiment unique. Et même si tu manges le même McDo, bah, tu n'as pas la même chose. Et puis même au niveau de l'expérience client, je trouve que, bah, on parlait tout à l'heure avec les ambassadeurs, puisque c'est la dernière étape de la spirale. La dernière fois que je suis allé chez McDo, enfin, l'avant, pas la dernière fois, les deux dernières fois, avant la dernière fois, en Tépélivienne, en fait, je suis allé chez McDo et en fait, la serveuse m'a dit, ah, vous voulez avec votre menu Happy Meal pour les enfants, est-ce que, là, tenez, je vous offre un verre gratuitement. Ah, et les enfants étaient gentils, ouais, étaient contents, ouais, vous êtes gentils et tout ça. Et ça crée un effet waouh, quoi. Et tu deviens ambassadeur. Pareil, je le raconte toujours, j'ai Mansoufleur qui est à côté de chez moi. Je suis allé chercher un bouquet de fleurs pour une soirée. Et c'est vrai que la fleuriste a donné une petite fleur à ma petite fille de 4 ans, ma petite fille la tenait dans la main comme ça tout le temps et elle était super contente, elle a montré à sa mère, ouais, oh regarde maman, j'ai eu le droit à une petite fleur. Et c'est vrai qu'à chaque fois elle me dit, hey, on va aller chercher des fleurs chez mon souffleur. Elle n'a pas oublié, c'est un tout petit truc, cet effet. Ouais. Bah, je te laisse continuer peut-être sur le, là on a parlé de l'effet de Tantal avec montrer, déséquilibrer cette fameuse balance qu'on se demande dans le livre entre les bénéfices, alors les achètes ou vous achètes pas, avec le prix et la valeur, donc essayer d'en mettre un maximum du côté valeur et un minimum du côté de prix.
Exactement. Pour l'effet McDo, d'ailleurs, c'est cette histoire de don caritatif, c'est aussi finalement de créer de la bonne conscience. Et je pense qu'ils réussissent bien à faire ça aussi. Tu manges ton McDo, mais en même temps, tu as bonne conscience parce que tu as donné tu as fait un don à une œuvre caritative. Tu as arrondi simplement, mais c'est une super, super idée qu'ils ont eue. Et ensuite, effectivement, on arrive, une fois que finalement le client a acheté, la dernière étape, qui est en fait la plus importante et celle qu'il va falloir soigner le plus, c'est l'étape de récurrence. On va continuer à apporter de la valeur à notre client en créant une relation privilégiée et surtout bienveillante avec lui. L'objectif, c'est de le fidéliser, de le rendre inconditionnel de nos produits ou services et de le transformer en ambassadeur. Alors moi, j'ai un exemple assez concret. Moi, j'utilise une plateforme, notamment pour héberger mes programmes, qui s'appelle Kajabi, et dont je suis un des membres fondateurs et qui fait un excellent travail là-dessus, vraiment.
C'est Jeff Walker, non, Kajabi, non ?
Non, c'est comment il s'appelait déjà ?
Kenny, c'est parce qu'il a lancé le product launch formula. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Mais Kajabi, sincèrement, c'est un des, je dis pas un dinosaure, mais c'est au niveau des super lancements et des plateformes de formation en ligne, c'est un des plus connus. Je sais, il y a de très très gros fans.
Ils sont très très bons et je les recommande vivement d'ailleurs.
Ouais, je sais, il y a Kajabi qui est vraiment
Kenny Reutler, je crois. En fait, ils étaient deux fondateurs, il y en a plus qu'un qui est resté, mais.
Ah ouais, non, ils sont. Moi, je suis plutôt Podia parce que je trouve qu'il est plus simple, mais il est beaucoup moins évolué que Kajabi. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont ClickFunnels, d'autres qui sont sur d'autres outils, mais bref, non, c'est vrai que c'est un bon outil. Alors vas-y, je t'ai coupé dans l'élan.
Ben justement, Kajabi, ce fameux service, ben, je reçois régulièrement des conseils de leur part. Je reçois des téléphones de temps en temps. Je reçois des cadeaux, des outils. Je reçois aussi, bien sûr, parfois des offres. Mais c'est toujours bienvenu parce que c'est toujours bienveillant. Ils savent exactement ce que j'attends. Ils savent où j'en suis dans mon activité. Ils peuvent me conseiller. et la relation se renforce, et ben, et du coup, je suis ambassadeur. La preuve, on est en train d'en parler maintenant. Donc ça marche. Et là, vraiment, eux, ils font un super job et c'est là-dedans qu'il faudrait tendre. Vraiment, de créer cette relation de proximité, de confiance et cette bienveillance aussi. Parce que bien sûr que derrière, il y a une relation commerciale. Mais finalement, on le sent très peu. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que la relation commerciale se dilue au profit d'une relation qui soit plus riche.
Ouais,
et
ben,
ça,
je
c'est
suis d'accord
difficile
avec toi.
À faire, hein, mais il faut y parvenir.
Mais c'est justement, c'est ça que j'aime bien dans ton bouquin, parce que justement, c'est aussi c'est des choses qu'on fait en fait au boulot. C'est-à-dire qu'en fait, on a un club utilisateur où on invite nos clients, pas forcément des super VIP, mais c'est des clients quand même qui sont intéressants et on leur présente des nouveautés, on les fait discuter sur des sujets, etc., etc. Et on en profite bien sûr pour créer du relationnel parce qu'on mange ensemble, on leur offre aussi un petit cadeau. Hein, tu connais le principe de la réciprocité. Moi, j'aime bien offrir des bouquins. Par exemple, on a offert, pas ton livre, mais parce que c'est dans la relation client, pour eux, c'est un peu trop marketing. Mais par exemple, un bouquin qui s'appelle Ces moments qui comptent. Et c'est vrai que tu leur offres un petit cadeau, rien qu'il y ait un bouquin ou même une photo, faire prendre une photo par un professionnel, ça c'est intéressant. Et après, les faire intervenir pour toi lors d'une conférence, nous on fait ça. Et c'est vrai que ça les valorise. Et après, les mecs, ils s'en souviennent tout le temps parce que c'était eux les stars, ils sont passés, ils ont une vidéo, etc. Mais et voilà, donc ça, je disais, c'est l'exemple en fait de cette fameuse septième étape avec les ambassadeurs. Mais ce que je trouve bien dans ton bouquin, c'est que justement, au lieu de faire des choses un petit peu, comment dire, à l'intuition, ton bouquin donne ces fameuses 7 étapes avec une structure qui est assez intéressante. Alors justement, comment tu as trouvé cette idée? Puis après, est-ce que tu peux nous développer juste une étape que je trouve assez sympa, qui est celle de la tantalisation? Comment on fait pour créer un désir irrésistible chez un prospect?
Alors bon, en fait, j'ai pas vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé, c'est quelque chose que j'ai plutôt à la base testé sur différents sites e-commerce que je gère, dans d'autres contextes professionnels, B2B également. Peut-être de clarifier aussi que cette spirale de valeur et de persuasion, il faut vraiment suivre les étapes dans l'ordre, que certaines étapes, on peut les sauter, les franchir. Par exemple, la tantalisation dans certains contextes, ce sera peut-être pas à propos. Je pense peut-être à certains contextes B2B justement, puisqu'on est dans ce domaine-là aussi avec toi qui es spécialiste du domaine. Hein, dans le B2B, on est plutôt on répond à des RFI, des RFQ, et puis c'est un peu différent. Mais avec cette couche supplémentaire de spirale de valeur et de persuasion et ces étapes, ben, on arrive justement à augmenter en fait le potentiel de on va dire de maximiser son le rendement de ces investissements marketing, parce que même si ce sont des équipes de personnes, des départements d'achat, de procurement qui décident, au final, ce sont quand même des humains avec des cerveaux.
Et ça, c'est pour ça que moi, j'ai souvent ce qu'on fait, c'est qu'on travaille notre visibilité, notre notoriété. Par exemple, une astuce qui est vraiment intéressante, c'est d'utiliser LinkedIn. Toi, souvent, tu as des acheteurs qui sont inaccessibles ou des responsables qui sont inaccessibles et totalement. C'est impossible de les avoir parce qu'ils sont sollicités tout le temps. Par contre, tu descends deux niveaux. Tu passes au manager, au superviseur, et eux, tu prends contact avec eux sur LinkedIn, tu les invites à un webinaire, tu les participes à une étude, tu leur envoies un livre blanc, etc., etc. Finalement, ça développe ton notoriété, et au moment où ils vont faire appel à toi, ils disent « Ah non, mais tiens, est-ce que tu as pensé à telle boîte ? Parce que je les connais, je les ai déjà vus, etc. etc. » Donc ça, c'est un travail qui est intéressant, et que c'est pas la tantalisation cette fois, mais c'est ce fameux travail d'ambassadeur.
Exactement.
Alors, dans ton livre aussi, il y a la technique du prendre et retirer, tendre et retirer. Alors, est-ce que tu peux juste nous en parler de cette petite technique en deux mots parce que quand on lit ça, on se dit l'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. Et c'est vrai que c'est comme en relation amoureuse. Si tu as quelqu'un qui est fou de toi, généralement, tu diras non, mais elle ne m'intéresse pas. Par contre, tu deviendrais amoureux de quelqu'un qui est peu inaccessible. Alors, explique-nous ce principe de tendre, retirer.
Alors, c'est le principe qu'il y a derrière, justement, dans l'étape de tantalisation. Je vais donner peut-être quelques exemples. En fait, il y a des plateformes, et en particulier aux États-Unis, qui sont ouvertes et qui ont eu un énorme succès. Typiquement, Clubhouse, c'est un exemple, effectivement, en avril 2020, une nouvelle application sociale qui débarque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par ouvrir seulement une toute petite... un tout petit segment de marché. Quelques personnes avaient accès seulement à Clubhouse, mais pas n'importe lesquelles, hein. Ils ont choisi des célébrités comme Oprah Winfrey, Elon Musk, Jared Leto et d'autres, hein, des gens connus outre-Atlantique et ici également. Et le seul moyen d'accéder à cette plateforme, c'était d'obtenir une invitation. Et donc, du coup, on tend quelque chose, mais en même temps, on le retire aussi. C'est-à-dire qu'on évoque quelque chose d'inaccessible et ça va augmenter le désir. Tout le monde voulait un accès à Clubhouse à un certain moment donné.
Et puis, c'était que sur iOS, je me souviens au départ.
Ouais,
c'est pour ça que moi, ça m'avait freiné. J'étais que... En plus, iOS, tu sais, c'est un peu VIP. Ce n'est pas tout le monde qui a un iOS. Et donc, au début, moi, je dis, oh, je ne peux pas aller sur Clubhouse, etc., etc. Et pareil, c'est... LinkedIn, c'est pareil, quand ils mettent des nouvelles fonctionnalités, tu ne les as pas au départ. Il n'y a que les VIP qui l'ont pour les LinkedIn Live. Il fallait faire une demande, remplir un formulaire et tout ça. Voilà.
Non, c'est exactement ça. Et c'est un mécanisme qui fonctionne très bien parce qu'une fois qu'il y a eu cette exclusivité, en général, les gens qui sont choisis et qui ont cette exclusivité sont aussi des ambassadeurs, à quelque sorte. Ce sont des gens qui ont été choisis parce qu'ils ont une audience, souvent, et qui vont parler. Donc, les autres derrière, ils ont encore plus envie de connaître la fonctionnalité. Quand elle s'ouvre, il y a d'autant plus cet effet d'appel d'air comme ça qui arrive. L'accès sur invitation, c'est un des mécanismes qui permet justement de créer ce temps de retirer. Facebook avait fait la même chose, hein, en 2004 quand ils s'étaient lancés accessible uniquement aux étudiants de Harvard, ensuite aux étudiants d'université, et ensuite ils ont agrandi de plus en plus, mais au début c'était exclusif, et c'est comme ça en fait qu'ils ont débuté, qu'ils ont créé leur notoriété. Un autre exemple, c'est Revolut, hein, le service financier, l'appli, qui a été fondé en 2015. Eux, ils ont aussi commencé comme ça. Les gens étaient sur liste d'attente. Et la liste d'attente, c'est un truc très fort aussi pour justement... on a accès, on est sur la liste, on se sent bien parce qu'on fait déjà partie de ceux qui sont sur la liste. Mais on n'est pas encore accès au truc. Et comme ça, dès qu'on a accès, ben on est à l'écoute, à l'éveil, puis on va très vite tester l'application.
D'accord. Alors justement, avant de finir notre entretien et que tu nous parles à nouveau du livre, est-ce que tu aurais un dernier point saillant qu'on devrait mettre en place? Alors là, on a beaucoup parlé de B2B, hein, club utilisateur et tout ça. Est-ce que tu as un dernier point saillant dans ton livre, un exemple ou un conseil que tu trouves intéressant à appliquer, mais cette fois plutôt dans le B2C? Pour une fois, on va changer un peu, on va se retrouver dans le B2C plutôt que dans le B2B ou qu'on connaît bien.
Alors, déjà, la première chose, je pense qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais dans le psychomarketing, un des éléments clés, c'est de comprendre les mécanismes cérébraux. Et que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, c'est important de bien comprendre comment le cerveau fonctionne. On a par exemple trois cerveaux ou trois systèmes cérébraux qu'il faut comprendre. C'est pas le rationnel qui fait vendre, c'est l'émotionnel, et souvent on n'est pas vraiment au courant des décisions qu'on prend parce qu'elles sont prises à un niveau bien plus profond dans l'inconscient. Et on peut justement on peut travailler cet inconscient, c'est-à-dire qu'on peut influencer l'inconscient des gens en jouant sur la perception des choses. Et ça, ce sont des éléments qui figurent dans le livre. Et il y a un gros chapitre justement sur la compréhension du cerveau. Et l'idée, c'est pas seulement de connaître le fonctionnement du cerveau pour influencer les gens ou les clients, mais simplement aussi de mieux connaître son propre fonctionnement, comme je l'ai dit tout au début, pour être plus objectif sur sa manière de travailler son marché.
Ouais, c'est vrai que c'est important parce que on sait très bien que c'est comme tu l'as dit, l'émotion, comme en grande surface. Moi, à chaque fois, je dis toujours aux gens, déjà première chose, n'allez jamais faire vos courses avec le ventre vide, parce qu'autrement vous allez être tenté par des sucreries, des choses comme ça, parce que votre ventre vous réclame de l'énergie. Deuxième chose, dans les supermarchés au début, tu as toujours ces fameuses promotions à l'entrée du magasin et des trucs irrésistibles avec des prix barrés, des machins, et tu dis waouh, c'est une super promo, allez, je le prends. Alors que si tu réfléchissais et tu te dis au bout de 30 secondes, est-ce que j'en ai besoin? Après, une minute après, est-ce que j'en ai besoin? Et là, tu te rends compte que tu n'as plus, parce qu'en fait, ton cerveau a réagi tout de suite. Le cerveau, je ne sais pas si c'est le cerveau limbique, je ne sais plus exactement, parce que tu as le cerveau préhistorique. Voilà, il faut que je retrouve dans ton livre l'endroit où ça se trouve exactement. Et donc, en fait, il faut essayer de rationaliser pour éviter justement l'achat. Et donc, l'objectif pour toi, au contraire, c'est d'aller jouer sur les émotions pour passer à l'action.
Et après, il y a des choses qui peuvent être Il y a des techniques qui peuvent être très manipulatives. Par exemple, augmenter la taille du caddie fait acheter plus. Si la bière est servie à une certaine température dans un bar, les gens vont boire plus parce qu'ils n'auront pas encore étanché leur soif. Si le goulot d'un soda est un peu plus gros ou qu'il a la bonne dimension, les gens vont boire plus. Il y a une montagne de tactiques comme ça, mais ce n'est pas vraiment ça le psychomarketing, parce qu'on peut en trouver plein. L'idée, ce n'est pas de manipuler les gens, mais plutôt de les emmener dans une expérience d'achat, qui est cette spirale de valeur et de persuasion, finalement, qui sera tellement intéressante pour eux qu'ils apprécieront tellement qu'ils auront envie d'y revenir et d'y rester. C'est vraiment ça l'objectif.
Ok, bah merci. Si tu veux nous parler un petit peu du livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, c'est comme finalement le format est bien parce que je trouve que c'est pas les gros formats, c'est un format qui est relativement carré avec 240 pages à peu près, les 230 pages si on enlève toute la partie comment dire glossaire, etc., etc., études, références. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce livre où on peut le trouver? Bien sûr, le prix, etc., etc.
Alors, le livre, donc c'est un livre qui explique toute la méthode, hein. Donc, avec ce livre, à la fin, on tient la méthode et en plus, il y a à l'intérieur un accès pour un cours accéléré de psychomarketing en ligne d'une valeur de 97 euros. Et donc, vous pouvez donc directement profiter à la fois du livre et du cours. Le livre vaut 25 euros. Il est disponible dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes librairies, ainsi qu'en ligne sur Amazon, Fnac, etc. Donc un peu partout. Et donc, on commence d'abord par décortiquer un peu pourquoi le marketing traditionnel ne fonctionne pas et quels sont les remèdes à ça. Ensuite, on fait une plongée dans le cerveau. On essaie de comprendre quels sont les mécanismes cérébraux pour un marketeur, comment les utiliser, que ce soit pour du marketing B2C ou B2B. Et ensuite, on va vous équiper en fait finalement d'outils pour pouvoir utiliser les éléments du psychomarketing à travers justement cette spirale de valeur et de persuasion que j'ai décrite de manière assez sommaire, mais qui est détaillée dans le livre. Et donc, l'objectif étant qu'à la fin de l'ouvrage, on puisse créer sa propre stratégie de psychomarketing. Après, pour les agences de communication, il y a aussi la possibilité d'être certifié, agence certifiée en psychomarketing, mais pour ça, il faut aller sur le site psychomarketing.com/agence. Il y a aussi des explications là-dessus dans le bouquin.
Ok, bah merci pour toutes ces informations. Donc, si vous cherchez le livre, donc il suffit de taper dans Google ou d'aller sur votre librairie préférée, demander Psychomarketing de Stéphane Lendy. Donc, 25 euros TTC plus le cours d'une valeur de 97 euros. Donc là, c'est une belle manière de présenter le prix d'ailleurs.
Exactement, c'est la dissymétrie entre la valeur offerte et le prix. Donc on applique un des éléments du psychomarketing.
Et tes sites internet, si tu peux nous rappeler rapidement.
Psychomarketing.com.
D'accord, bah merci pour cette interview.
Merci à toi, Frédéric.